إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، فنواصل دروسنا في ما يتيسر من شرح الأدب المفرد للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى. ووصلنا إلى باب الولد مبخلة مجبنة. الولد مبخلة مجبنة. أخانا إسلام، الحديث 84.
عائشة رضي الله عنها a dit un jour Abou Bakr a dit: par Allah, il n'y a pas un homme à la surface de la terre que je n'aime autant qu'Omar. Puis il sortit et revint. Il a dit: oh ma chère fille, comment ai-je juré? Alors je lui ai répété ce qu'il avait dit. Alors il a dit: par Allah, il n'y a pas un homme à la surface de la terre qui ne m'est plus cher, et son fils plus encore.
Et son fils plus encore. Et la traduction, elle est un peu bizarre. Un peu bizarre. Voilà, c'est plus les certains mots qu'ils ont traduits.
Ouais, fait que son futur revenu, en fait, en rajoutant le fils de Omar. Comme ça, comme
le fond. Mais qui dit que c'est le fils de Omar? Il dit Wal Walad.
Oui.
Ouais, qu'il
a cité Omar au début.
Ouais. Après, parce qu'il parle de ses enfants à lui. En fait, il dit que Omar, au début, il a dit Omar, c'est l'homme qu'il aime le plus ou qu'il ouais. le plus cher pour lui. Az ilay. Ou alay. Mais en fait, il dit par la suite que, quand même, malgré ça, l'enfant, il est plus dans le cœur du père qu'un ami, comme Omar, par exemple. Parce que là, le chapitre qui concerne justement l'amour que le père il a pour son enfant et pas pour l'enfant de quelqu'un d'autre. Donc là, c'est de son fils dont il parle ici, Abou Bakr. Il ne parle pas de l'enfant de Omar, il parle de son fils à lui. En gros, il dit non. En plus, dans le texte, il n'y a rien qui indique qu'il parle d'Ibn Omar. Rien qui l'indique. Il dit Wal Waladou. Oui, pour dire que l'enfant est plus aimé du père qu'un ami. Que Omar, c'est un ami pour Abou Bakr, un compagnon. طيب. إذن هذا الحديث حسن، حديث ناد، وأخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد. وهذا العنوان من حديث أو من حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هو حديث صحيح في صحيح سنن ابن ماجه: إن الولد مبخلة مجبنة. فأخذ الإمام البخاري ذلك وجعله لهذا الباب ترجمة. ولأجل هذه المراجعة ذكر الإمام البخاري هذا الحديث تحت هذه الترجمة. طيب، donc ce hadith il est حسن، d'accord، il est bon، a été rapporté par l'imam al-Lalakai également، d'accord. On revient juste un petit moment sur le titre quand même, le titre du chapitre, hein, qui est cité avant le hadith, qui est Babun al-Waladu Mabkhalatun Majbanatun. Et qu'ils ont traduit par l'enfant.
L'enfant éduqué dans l'avarice et la lâcheté.
C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Non, le bukhl, c'est bien l'avarice. Et le djoubn, c'est la lâcheté. D'accord ? Le majbana, ça vient de la lâcheté. Taïb. Mais ça ne veut pas dire l'enfant qui est éduqué dans ça. Ça ne veut pas dire ça. Ce n'est pas là le sens exact. D'accord ? Donc il dit ici, l'auteur justement, que ce titre-là, il est tiré d'un hadith en fait. Il est tiré d'un hadith du prophète, alayhi salam, qui est un hadith authentique, rapporté par Ibn Majah, dans lequel il dit le prophète, alayhi salam, « Inna al-walada mabkhalatun majbanatun ». D'accord ? On va expliquer, Inch'Allah, ce que ça veut dire vraiment. Là, juste pour dire que le titre, il est tiré d'un hadith. D'accord ? C'est un hadith, c'est la parole d'un nabi. Sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Donc, vu que ici on a le chapitre concernant le rapport entre le père et l'enfant, d'accord ? Yani ici, il a cité ce titre-là, donc ce hadith-là, pour montrer cet aspect-là de l'enfant, d'accord ? Concernant l'aspect de l'avarice et l'aspect de la lâcheté. C'est quoi le lien ? C'est quoi le rapport entre l'avarice et l'enfant et la lâcheté et l'enfant ? On verra, Inch'Allah Ta'ala. D'accord ? طيب حدثنا عبد الله بن صالح. Donc il dit l'imam al-Bukhari nous a rapporté عبد الله بن صالح qui a dit حدثني الليث الليث بن سعد l'un des plus grands imams de son époque, hein, qui est un Misri, originaire d'Égypte, Al-Layth ibn Sa'd. On parle souvent des quatre imams, que sont Malik, Ahmed, Shafi'i, Abu Hanifa, mais il faut savoir que Al-Layth ibn Sa'd a lui aussi son école de fiqh, son école de jurisprudence, qui est très connue, moins connue peut-être que les quatre écoles, hein, mais son école est très répandue dans le monde entier. Et donc il était originaire de Misr. Qala kataba ilayya Hisham. Il a dit Hisham m'a écrit. Donc Hisham c'est Hisham ibn Urwa. Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn Al-Awwam. D'accord ? Donc il a dit Layth, Layth Hisham m'a écrit. An abihi, selon son père. Son père c'est Urwa. Et son père c'est le fils de Zubayr, le compagnon. D'accord ? Et donc le père de Hisham, qui est Urwa, qui était donc un tabi'i, il rapporte lui de Aïcha, radiyallahu anha, qui a dit, Abu Bakr, un jour il a dit, c'est-à-dire son père, son propre père, un jour a dit, par Allah, il n'y a pas un homme sur la surface de la terre qui m'est plus aimé que Omar. Qui m'est plus aimé que Omar. Donc imagine, on imagine qu'il a dit ça après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Falamma kharaja, puis lorsqu'il est sorti, il est revenu. Il a fait demi-tour, il est revenu voir Aïcha et il lui a dit oh ma chère fille, comment ai-je juré ? Il a dit qu'est-ce que j'ai dit ? Alayk salam wa rahmatullah. Faqultu la. Donc Aïcha, elle a dit je lui ai dit ce qu'il a dit. D'accord ? Faqala a'azzu alay. Donc il a changé ahabbu par a'azzu. D'accord ? Il a changé le mot ahabbu qui veut dire plus aimé par a'azzu qui est le plus cher ou comme ils ont traduit na'am a'azzu le plus cher a'azzu alay na'am on peut dire aussi le plus fort par rapport à moi. Il n'y a pas une personne plus forte sur terre que Omar par rapport à moi. D'accord ? Parce que le terme aziz ça englobe plusieurs sens, l'aziz. Aziz, la force, la puissance, la. Hein?
L'aziz, c'est quelqu'un d'aimé.
D'aimé, là. Ouais, ça peut vous dire ça, c'est quelqu'un d'affectueux, que tu aimes beaucoup. Ça peut être aussi ça, là.
Al-Muhim, l'Iza, ça peut rassembler plusieurs choses. Mais en fait, là, c'est comme s'il revenait sur ce qu'il venait de dire. Il enlève Ahabou pour le remplacer par Azou. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Wal-waladu al-watu. Et le walad, c'est l'enfant. D'accord? Et l'enfant, il est al-wat. Et on va voir ce que ça veut dire al-wat, inshallah ta'ala. فمعان الكلمات قوله الولد مبخلة مجبنة على وزن مفعلة من البخل والجبن أي مظنة للبخل ومظنة للجبن. Donc là, on va voir ce que ça veut dire vraiment. مبخلة مجبنة. Ça veut dire, bon déjà, ces mots-là, ils sont sur la structure مفعلة. Maslaha, manfa'a. Hein? Tous ces mots-là, en fait, ils vont exprimer quelque chose. Rien qu'en regardant comment ils sont construits, comment ils sont construits, maf'ala, maslaha, manfa'a, mabkhala, majbana, on va comprendre ce qu'ils expriment pour ceux qui ont étudié un peu as-sarf, la morphologie des mots dans la langue arabe. Et donc, ces mots-là, ils expriment quoi? Ils expriment le fait que la chose dont on va parler, eh bien, elle va entraîner quelque chose. Elle va avoir des répercussions et ces répercussions là donc vont dépendre du mot. Par exemple, maslaha, al maslaha, quand on parle de maslaha, c'est une chose qui va entraîner une réforme. Hein? Al islah, al maslaha, c'est une chose dont on espère un islah, une réforme, une correction, une remise à niveau. Manfa'a, un manfa'a, c'est une chose dont on espère un naf'a, un bénéfice. D'accord? Donc là, mabkhala, quand on dit al-waladu mabkhala, ça veut dire qu'al-walad, l'enfant, c'est une créature qui va entraîner l'avarice chez qui? Chez le père. Chez le père. Yani l'enfant, c'est une cause d'avarice chez le père. L'enfant, majbana, c'est une cause aussi de lâcheté chez son père. Mathalan, le père, avant d'avoir un enfant, c'était quelqu'un qui dépensait beaucoup dans le sentier d'Allah, pour les pauvres, pour les orphelins, etc. etc. Le jour où il a eu un enfant, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté de dépenser pour son enfant. D'accord? Il a arrêté de donner. Avant, il donnait, après il arrête. Vous voyez? Il se peut même qu'il l'arrête de verser ce qui lui est obligatoire, comme la zakat obligatoire, etc. Il donnait avant zakat. Dès qu'il a eu un enfant, il a arrêté d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit ici le prophète, El waladu mabkhala. Mabkhala. Et il dit aussi, majbana. Mathalan, une personne avant d'avoir eu un enfant, c'était quelqu'un qui était courageux. Qui, par exemple, à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait des batailles contre les ennemis de l'islam, il sortait, etc. Et le jour où il a eu un enfant, il ne voulait plus sortir. Allez, comme ça. Il ne voulait plus sortir. Par peur de laisser son enfant tout seul, hein, ou pour rester avec son enfant et s'occuper de lui. Ou pour aller rechercher la science, par exemple. Donc la personne, quand elle est célibataire et qu'elle n'a pas d'enfant, elle va voyager dans tel ou tel pays, dans tel ou tel endroit pour acquérir de la science, légiférer. Et le jour où elle a un enfant, je ne peux pas partir. Il faut que je reste avec mon fils, ma fille, et que je m'occupe d'eux. Vous voyez? Donc c'est une forme de lâcheté, dans le sens où l'individu ne fait plus les efforts dans le sentier d'Allah et dans la lutte de le sentier d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est ça le sens vraiment de la parole du prophète ici. C'est pas comme ils ont dit, l'enfant qui est élevé dans l'avarice, dans la lâcheté. C'est pas ça. Rien à voir. D'ailleurs. Idan mabkhalatun majbanatun. Ay ma yahmilu ala al-bukhli wal-jubn. Ma yahmil ala al-bukhli wal-jubn. Ma dhinnatun lil-bukhli wa ma dhinnatun lil-jubn. Encore une fois, c'est ça. C'est quelque chose qui est mabkhala et majmana, majmana, c'est quelque chose qui incite à ça, qui te pousse à devenir avare et à devenir lâche. Donc ça peut être l'enfant, ça peut être d'autres choses aussi. En vérité, il n'y a pas que l'enfant, mais c'est vrai que l'enfant, yani, crée souvent ce comportement-là chez le parent. فقال أبو بكر أعز علي أي ما على ظهر الأرض رجل أعز علي. شرحنا هذا. والولد الوط. ما معنى الوط؟ أي ألصق بالقلب. ألصق بالقلب وأحب إلى النفس. ولهذا بدل أبو بكر. طيب. Puis il dit الولد الوط. Donc ça veut dire quoi al-watu? Al-walad, c'est l'enfant. Al-walad. D'accord? Al-watu, c'est-à-dire c'est une chose qui est vraiment attachée au cœur. Quelque chose qui est attaché, agglutiné sur le cœur de la personne. On dit qu'il est al-wat. En gros, c'est une image pour dire que la chose ou la personne est très aimée pour elle. D'accord ? C'est partie des choses qu'elle aime le plus. Et des personnes qu'elle aime le plus. C'est pour ça qu'il a changé en vérité. Au début, il avait dit Omar, ahabu ilay. Après, il est revenu, il a dit non, Omar, c'est pas le plus aimé pour moi. Omar, c'est le plus cher, etc., etc. Mais le plus aimé, c'est l'enfant. Le plus aimé chez la personne, c'est son enfant. C'est vraiment la créature qui est le plus collée dans son cœur. D'accord ? Présent dans son cœur. Naam. فقلت له اي قلت له الذي قاله. Donc Aïcha, lorsqu'il lui a demandé, elle lui a répété ce qu'il avait dit. D'accord? Donc tu as dit que Omar était la personne que tu aimais le plus sur terre, etc. فخرج ثم رجع فسأل عائشة عما قال كيف حلفت اي بني فقلت له اي قلت له الذي قال فقال اعز علي والولد الوط فالولد ثمرة الفؤاد وفلذة الكبد لأن الثمرة ما تنجه شجرة والولد ينتجه الأب. Donc il est sorti, après il est revenu, il a posé la question à sa fille, qu'est-ce que j'ai dit? Sa fille elle lui a dit tu as dit ceci et cela, et là il a dit, il a modifié un peu ce qu'il avait dit, il a dit Omar Azza Ali, c'est on va dire le plus cher pour moi, mais el waladu alwa. Mais l'enfant, lui, il est plus collé au cœur que quiconque. D'accord ?
Il dit ça par rapport à sa fille aussi.
Si, al-waladou. 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 Est-ce que al-waladou, na'am ? Al-waladou rentre aussi la fille dedans. Al-waladou. Na'am. 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 Taïb. Il dit le shaykh Raslan Fidahullah Ta'ala. Fa al-waladou, l'enfant, c'est le fruit du cœur. C'est le fruit du cœur. Parce que al-thamara, qui est le fruit que donne l'arbre. L'arbre, il donne un fruit. Ce fruit, on l'appelle thamara. Alors que le père, lui, qu'est-ce qu'il donne comme fruit? Eh bien, c'est el-walad. Donc el-walad, l'enfant, c'est le fruit du père. Alors que le fruit, ben, c'est de l'arbre. D'accord? C'est pour ça qu'il dit Walwaladu Alwatu. Il est plus collé au cœur de la personne. Naam. Parce que justement, cet enfant-là, il vient de son père. Son père qui l'a enfanté. Naam. D'ailleurs. Ma yu'khadhu min al-hadith. Shiddatu hubbi Abi Bakrin radiallahu anhu lil Farouq. Premièrement, autour du hadith. L'amour, le grand amour qu'éprouvait quand même Abu Bakr pour Omar. Hein? دليل على عظم تعلق قلب الوالد بولده محبة وتمنيا له بأن يكون من خير الناس خلقا وأوسعهم رزقا. Et deuxièmement, on a la preuve ici, bien sûr, de l'attachement énorme que le père il ressent dans son cœur pour son enfant, hein, en termes d'amour et en termes aussi de souhait et d'espoir en sa faveur afin qu'il fasse partie des meilleures personnes, hein. Tout père rêve que son fils fasse partie des meilleurs hommes sur terre, que ce soit en termes de comportement ou en termes de richesse matérielle, yani. D'accord ? Non. طيب. Islam قال عفوا نقرا قبلك ان شاء الله تعالى. حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا ابن ابي يعقوب عن ابن ابي نعم قال كنت شاهدا ابن عمر اذ ساله رجل عن دم البعوضه فقال ممن انت؟ فقال من اهل العراق. فقال انظروا الى هذا يسالني عن دم البعوضه فقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول هما ريحاني من الدنيا. نعم. اسلام.
J'étais présent avec Ibn Omar lorsqu'un homme l'interrogea concernant le sang du moustique. Il a dit « D'où viens-tu ? » Il répondit « Je viens d'Irak. » Alors il a dit « Regardez celui-ci, il m'interroge sur le sang du moustique alors qu'ils ont tué le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Al-Hassan et Al-Husayn sont mes deux myrtes. »
Mes deux myrtes.
Myrtes de ce bas monde.
تعرف ما هو ميرت؟ ميرت. النبات. De quoi? De myrte?
Nous avons traduit ici de manière littéraire le saint s'induit et celui de miséricorde repos.
C'est une plante. طيب on va voir inchallah ta'ala. Ah, les myrtilles. Ibn, هذا الحديث صحيح. الحديث أخرجه المصنف في الصحيح ذكره في كتاب الأدب من صحيح باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. Donc ce hadith il est authentique. Il a été rapporté aussi par l'imam dans son livre الصحيح, hein, dans le chapitre de l'Adab intitulé La miséricorde de l'enfant, c'est-à-dire pour l'enfant, ainsi que le fait de taqbiluhu, de l'embrasser ou de lui faire des bisous, ou mu'anaqatuhu, le fait de le prendre dans ses bras ou dans nos bras. D'accord? Farijal al-Isnad. Awalan Moussa. On a donc Moussa ibn Ismail al-Tabouzaki rahimahullah, thumma Mahdi ibn Maymoun wa huwa Abu Yahya al-Azdi al-Basri وهو ثقة وابن أبي يعقوب محمد ابن عبد الله وهو ثقة وابن أبي النعم وعبد الرحمن البجلي الكوفي ثقة ضعفه ابن معين. Donc parmi tous ceux que je viens de citer, alhamdulillah, on a que des rapporteurs de hadith qui sont fiables, même si sur le dernier certains ont divergé. نعم. معاني الكلمات. معاني الكلمات. يسألني عن دم البعوضة. عند الترمذي عن دم البعوضة يصيب الجسد وورد أيضا بلفظ الذباب عن دم الذباب. Donc juste on revient sur la traduction du hadith. Il dit ici le tabi'i qui est Ibn Abi Nu'm. Il dit j'étais en train de regarder Ibn Omar, le compagnon Ibn Omar, radiallahu anhu, lorsque un homme est venu le voir et lui a posé une question. Et la question portait sur Dam al-Ba'ouda, le sang du moustique. Le sang du moustique, littéralement. Mais en vérité, il posait la question sur le jugement de tuer un moustique. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est halal?
Ce n'est pas le sang qu'il aspire, c'est le sang lui, pas du moustique.
Oui, le sang du moustique, ouais. Donc, est-ce que c'est permis ou pas de tuer le moustique? Non. Regardez la réponse d'Ibn Omar. Il lui a dit, de qui es-tu? Yani, de quel clan viens-tu? Il a dit, je fais partie des gens de l'Irak. L'Irak. Et là, il lui a dit, regardez. Il s'est adressé aux gens qui regardaient autour. Il a dit, regardez-le, lui. Regardez-le. Il m'interroge sur le jugement de tuer un moustique alors qu'ils ont tué le fils du prophète. C'est-à-dire le petit-fils. D'accord? Le fils du prophète, c'est-à-dire le petit-fils. Le fils de sa fille Fatima. D'accord? Il parle ici. De qui il parle ici? Al-Hussein. Al-Hussein. Yani, il me demande si c'est permis de tuer un moustique alors qu'ils ont tué le petit-fils du prophète, Al-Hussein. Radiallahu anhu. Après, il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Huma, c'est-à-dire Al-Hussein et Al-Hassan, ces deux-là sont mes deux Rayhan. Donc Rayhan, c'est les plantes aromatiques. De manière générale, Rayhan, c'est une plante aromatique. Une plante qui sent bon, qui dégage un parfum agréable. D'accord? Rayhan. Il a dit, donc ces deux-là sont mes deux plantes aromatiques, si vous voulez, de la dunya. Et vous allez comprendre, inchallah, pourquoi il a comparé ces deux enfants à des plantes aromatiques. Il y a toujours une raison. Hein? Dans les expressions arabes, on verra qu'il y a toujours une raison et une cause particulière. Donc, il dit ici, il m'interroge sur le sang du moustique. Dans la version de Tirmidhi, il dit sur le sang du moustique qui a touché le corps, qui a touché le corps de la personne. Donc, du coup, là, ça change un peu le sens. Et dans une autre version, il dit le sang de la mouche. Le sang de la mouche. Il se peut qu'il ait posé sur les deux, le moustique et la mouche. Allahu alam. Il se peut aussi que le terme ba'oud rentre dans le mot dhubab aussi. Dans l'arabe, il se peut que dhubab englobe aussi les moustiques, etc. D'accord? Quoi qu'il en soit. قال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحاني من الدنيا يعني الحسن والحسين ريحاني الريحان مخفف من ريحان في الأصل يقال ريحان بشدة الياء ريحاني طيب لكن هنا يخفف وأصبح ريحان على وزن فيعلان من الروح وهو في اللغة كل ما طاب ريحه من النبات الريحان في اللغة العربية هو كل ما طاب ريحه من النبات والريحان عند الفقهاء ما لساقه رائحة طيبة كالورقة أما الورد فما لورقه رائحة طيبة فحسب لا لساقه فهذا فرق ما بين الريحان والورد عند الفقهاء. Puis il dit donc, ces deux-là sont mes deux Rayhan. Il parle de Al-Hussein et Al-Hassan. C'est qui le plus âgé entre les deux? Hein? Là, Al-Hussein. Al-Hussein, ils sont nés la même année. Ils sont nés la même année. Mais Al-Hussein, il est né plus tôt. D'accord? Puis Al-Hassan. Et qui est-ce qui est mort en premier? Hein? Là, Al-Hassan. Donc Al-Hassan, il est mort après, il est né après Al-Hussein, donc il est plus jeune, et il est mort avant son grand frère, Al-Hussein. Al-Hussein, il est né un peu plus tard, pas longtemps. D'accord? Il est mort un peu plus tard, pardon. De très peu. Donc Rayhan, ça vient du mot Rayhan. À la base, il y a une shadda sur le ya. Rayhan. Mais on peut aussi le dire bitakhfif, en enlevant la shadda et dire Rayhan. Ça vient de l'origine, la racine du mot, c'est Rauhu. Et Rauhu, ça peut être plein de choses. Rauhu. Rauhu, ça peut être Raha, le repos. D'accord? Ça peut être une odeur agréable, Rauhu. Ou le plaisir, Surur, El Farah. La joie, etc. D'accord? Tout ça, c'est Ça vient de Rauhu. Donc, dans la langue arabe, Rayhan, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les plantes qui dégagent un parfum agréable. Toute plante dégageant un parfum agréable, on dit Rayhan. Taïb. Mais Rayhan, de manière plus technique chez Al-Fuqaha, les juristes, ils disent que c'est les plantes qui dégagent une odeur agréable, mais de par leurs racines, de par leurs tiges. Ça veut dire que si tu les arraches, par exemple, tu arraches leurs tiges, elles n'ont plus d'odeur. Elles n'ont plus d'odeur. Hada Rayhan. Alors que Al-Wardu, donc Al-Wardu en général c'est la rose, Al-Wardu, c'est une plante qui dégage une odeur, mais d'elle-même, indépendante de la racine. D'accord ? C'est pas la racine qui dégage l'odeur, mais c'est la plante elle-même, les fleurs, qui dégagent cette racine-là, comme les roses. La rose, tu l'accueilles, elle sent toujours. Elle dégage toujours cette odeur-là. D'accord ? Ça, c'est la différence donc entre Al-Rayhan et Al-Ward. Al-Rayhan et Al-Ward. Huma Rayhanay min ad-dunya. Ya'ni al-Hasana wa al-Hussein. Ay huma akramani Allah bihi wa habani. لأن الأولاد يشمون الأولاد يشمون صح ويقبلون فكأنهم من جملة الرياحين كأنهم من النبات لها رائحة طيبة صح سلام والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشم الحسن والحسين ويضمهما على صدره ويقبلهما وكان ربما ذهب إلى بيت فاطمة بنته من أجل أن تخرجهما أو أحدهما إليه معه فربما أبطأت عليه صلى الله عليه وسلم وهو بالانتظار من أجل أن تصلح ما تصلح من شأنهما أو من شأن من يخرج إليه منهما فكان يقول صلى الله عليه وسلم إلي يا لكع إلي يا لكع وكان صلى الله عليه وسلم ربما أخرج لسانه أخرج لسانه لأحدهما يبحشه بذلك ويضاحكهما وكان الواحد منهما ربما على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يؤجله بل يعني كان يبقي على ظهره. Donc il dit ces deux enfants, Al-Hassan et Al-Hussein, ces deux petits-fils sont mes deux Rayhan de la dunya. Donc premièrement, il veut dire par là qu'Allah tabarak wa ta'ala l'a honoré en lui faisant don de ses deux petits-enfants. Et aussi, quel est le rapport entre justement la plante aromatique, la comparaison avec ces plantes-là? Il dit parce que les enfants, hein, souvent, hein, qu'est-ce qu'on fait, hein? On les sent. On aime bien sentir les enfants parce qu'ils ont une odeur naturelle, hein, d'enfant. Et aussi, on leur fait des bisous, etc. Comment on ferait avec une plante aromatique, hein, quand tu prends une rose et que tu la sens, tu la mets contre ton nez comme ça, hein, et tu fais pareil avec les enfants. Donc là, on voit le lien et la comparaison entre les enfants et ces plantes. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de sentir, taïr, renifler l'odeur de ses petits-enfants ou de les prendre dans ses bras contre sa poitrine, leur faire des bisous, etc., etc. Taïeb. Et il se peut que il se rendait des fois chez sa fille Fatima juste pour aller chercher ses petits-enfants afin de les sortir avec lui, ne serait-ce que l'un des deux, hein? Et des fois même Fatima, elle le faisait attendre et lui il restait là à attendre impatiemment enfin impatiemment, il attendait en tout cas que ses enfants sortent, ses petits-enfants sortent, le temps que Fatima elle les prépare, etc., etc. D'accord. Il disait même des fois, il est ya, ya luka. Il est ya luka. Luka, c'est sarir. Quelqu'un qui est petit, en arabe, on dit luka. En gros, il les appelait quoi. Hein, viens petit, viens à moi. Des fois, même, il sortait sa langue, il jouait avec eux, il sortait sa langue pour les faire rire, hein, pour leur faire plaisir, etc., etc. Et des fois même, l'un d'entre eux montait sur lui, hein, sur son dos. Et qu'est-ce qu'il faisait? Donc il ne bougeait plus jusqu'à ce que l'enfant décide de descendre par lui-même, de lui-même. D'accord? فَمَا يُخَذُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَوَّلًا يَجِبُ تَقْدِيمُ مَا هُوَ أَوْكَدُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ أُمُورِ دِينِهِ لإنكار ابن عمر على سائل العراقي عن دم البعوض وقد فرط أهل العراق فيما هو أجل وأعظم وهو الحسين ابن علي الذي قتل ظلما وبغيا. Première chose que l'on tire du hadith, le fait qu'il soit obligatoire de donner une réponse à celui qui vient t'interroger sur une question, eh bien, de donner à la personne une réponse qui sera plus bénéfique pour elle. Au lieu de donner la réponse à sa question exacte, eh bien, tu vas lui donner une autre réponse. D'accord ? Qui n'a pas forcément un lien direct avec la question qu'il avait posée, mais parce qu'il a plus besoin de cette réponse-là que l'autre. D'accord? Donc on voit que dans le hadith, au final, il ne lui a pas dit est-ce qu'il était permis ou pas de tuer un moustique. Il ne lui a pas dit. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y avait plus urgent. Il y avait plus urgent à lui faire comprendre, à lui faire savoir. Plus important. C'est pour ça qu'il dit le cheikh, à ce moment-là, il était obligé, Ibn Omar, de désapprouver ce qu'ont fait les gens de l'Irak en assassinant Al-Hussein Ibn Ali. D'accord? Parce que ce qu'avait fait le fait de tuer un être humain, un musulman, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, est bien plus grave que de tuer un insecte. Même si on dit que tuer un insecte est interdit, c'est incomparable avec le fait de tuer un être humain. Tayyib. Et donc, Al-Hussein, lui qui a été tué injustement et sans droit. Naam. Donc, c'est permis ou pas, les frères, de tuer un moustique? Hein?
Oui,
ça dépend quoi.
Tu peux tuer.
Ça, c'est interdit. C'est parti de la musique.
Pourquoi c'est interdit?
C'est parce que normalement, avec le système électrique qu'ils ont, quand on voit un carrefour là, comme ça, c'est interdit de électrocuter.
Pourquoi?
Oui, tuer comme ça, mais pas avec.
Le moustique. S'il te nuit, il n'y a pas de problème à le tuer. Notre moustique, c'est connu que ça nuit à la personne. Hein. Ça nuit à la personne. Hein. Ouais, c'est nuisible. C'est un insecte qui est nuisible. Donc, il n'y a aucun mal à le tuer. Après, électrique ou pas électrique, je ne sais pas la cause. Pourquoi ça serait interdit? Si ça fait souffrir l'animal, oui, c'est interdit. Parce qu'il est interdit de se faire souffrir l'insecte. D'accord? Donc il souffre, enfin il meurt d'un coup quoi, il meurt en un instant. Voilà. Donc s'il souffre pas, il n'y a pas de raison.
Il ne devait pas électrocuter un animal. Il faut tuer comme il faut, mais pas.
Ah, Allah. Voilà.
J'ai entendu ça.
Par rapport à quoi?
Tu as un insecte, un raquette, un
إن شاء الله. طيب، ثانيا الانصراف عن السؤال إلى آخر إذا اقتضى المقام ذلك، والبحث عما يزكي نفس السائل مع بيان ما يلزمه ويحتاج إليه من أمور. فلا نجيب عن كل سؤال، فإذا سئلنا سؤالا لا مصلحة فيه أجبنا عن غيره مما يزكي نفس السائل ومما هو حاجة إليه، كما فعل ابن عمر رضي الله عنه. C'est un peu pareil, hein. T'as vu? Donc le fait de ne pas donner la réponse qui était demandée à la base, mais de donner une autre réponse qui va être appropriée à la situation et les besoins de la personne, et aussi afin de réformer dans l'intention de réformer la personne. Quelqu'un par exemple qui vient te poser la question sur le jugement justement, voilà, de tuer les insectes. Toi tu sais que la personne ne prie pas, déjà à la base elle ne prie pas, et elle vient te poser la question sur est-ce qu'il est permis de tuer un insecte, hein? Donc toi qu'est-ce que tu vas faire? Au lieu de lui donner la réponse qu'elle cherche, tu vas l'exhorter à prier. Tu vas l'appeler à la prière. Tu vas lui faire comprendre l'obligation énorme de la prière, que c'est le deuxième pilier de l'islam. D'accord? Ou une personne qui viendrait te poser une question sur zakat ou les siyam, mais tu sais que la personne commet des actes de shirk. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui faire un détaillé de la zakat, etc., etc. Ou tu vas d'abord l'exhorter sur ce qu'elle fait par rapport au shirk. Tu es obligé. Tu es obligé de faire prévaloir en premier le plus important, qui est son tawhid. D'accord? Non. Comme il a fait ici, Ibn Omar. Non. Parce qu'encore une fois, même si la personne verse la zakat correctement, de manière légiférée tous les ans, mais qu'à côté elle fait du sihr ou elle va consulter sihr, ça ne servira à rien. Sa zakat, elle ne servira à rien. D'accord? Non. ثالثا تخصيص الحسين بذكر لعظم قدره ورفيع مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ici on voit aussi le rang élevé de Al-Hussein ibn Ali, car il a été mentionné donc par Ibn Omar radiyallahu anhuma. رابعا دليل على جهل هذا السائل عن حكم دم البعوضة. Quatrièmement, la preuve de l'ignorance aussi du questionneur au sujet du jugement de tuer un moustique. خامسا دليل على ذكاء الصحابة الكرام وأنهم من نقاد أهل البدع وأصحاب الأخطاء الشنيعة. Cinquièmement, la preuve de l'intelligence des Sahaba. Hein, de la sagesse et de la perspicacité des sahaba radiyallahu anhum, et que c'était les premiers, hein, à réfuter les innovateurs et à réfuter les gens qui commettent des erreurs graves dans leur religion. D'accord? Naam. Thumma yaqul الإمام البخاري باب حمل الصبي على العاتق. حمل الصبي على العاتق.
Sur le fait qu'il a le fils d'Omar, il a dit regardez celui-là. En fait, il a interpellé les gens. C'est pas pour tout le monde ça quand même. C'est vraiment pour quelqu'un qui a de la science comme lui quand même.
Par rapport au fait qu'il a appelé tout le monde, etc. Ça va dépendre. Ça va dépendre de la situation. Ça va dépendre de la situation. S'il y a une maslaha à faire entendre les gens qui sont autour pour qu'ils profitent de la faïda, tu peux le faire, alhamdoulilah.
C'est quelqu'un de science qui peut le faire.
Ça dépend. Si toi tu as la science, quelqu'un de science, ça veut dire quoi? Si toi tu as la science de ce dont tu parles, si tu sais que dans ce cas-là, l'égarement justement de ceux qui ont assassiné Al-Hussein, d'accord? Toi tu connais le jugement de cet acte-là, tu sais que c'est un meurtre sans droit, injuste. Et tu sais que les gens qui sont autour, il y a une maslaha, un bienfait énorme, que les gens profitent de la, pas la contradiction, mais du fait que cette personne-là interroge sur une chose qui est minime par rapport à ce qu'ils ont fait à Al-Hussein, pour montrer leur paradoxe et leur contradiction, comme quoi ces gens-là accordent une importance des fois à des choses, hein, parce qu'il faut savoir que le Khawarij, le Takfiriyoun, accordent une importance, font sortir les gens de l'islam pour des choses minimes dans la religion. D'accord ? Des choses minimes dans la religion, ils font sortir les gens de l'islam. Alors que eux à côté, ils tuent par centaines des innocents, des femmes, des enfants, des vieillards, innocents qui n'ont rien demandé.
Des musulmans.
Des musulmans, naam. Musulmans ou même kuffar. D'ailleurs. Donc pour montrer vraiment l'égarement de ces gens-là, la gravité, comme quoi ils sont allés loin de l'égarement, eh bien il a vu qu'il était bien de sensibiliser les gens qui étaient autour. باب حمل الصبي حمل الصبي على العاتق. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي ابن ثابت قال سمعت البراء يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات الله عليه على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. Islam.
Chapitre, porter l'enfant sur son épaule. El-Bara a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Hassan sur son épaule. Il sallallahu alayhi wa sallam disait: Oh Allah, je l'aime, aime-le.
Non, barakallahu fik. J'ai. Hadith hadith sahih. وهو موجود في الصحيحين. Donc ce hadith, il est authentique et on le retrouve également dans Sahih al-Bukhari et Muslim. رجال الإسناد عندنا شعبة بن الحجاج معروف رحمه الله وعدي بن الثابت وهو الثقة إمام الشيعة وقاصهم قال شعبة كان من الرفاعين أي كان ممن يرفع الحديث الموقوفة. Donc parmi les rapporteurs du hadith, on a Shu'ba ibn al-Hajjaj. Donc celui-là, il faut le connaître, les frères. Un rapporteur très connu qui a rapporté énormément de hadiths. Shu'ba ibn al-Hajjaj, qui a rapporté ce hadith d'un certain Adi ibn Thabit. Adi ibn Thabit, qui était un des imams des Shia. Un des imams des Shia. Et parmi ceux qui, donc, ressasser les histoires, hein, au sein de ce groupe Shia. Voyez, donc on avait parlé de ça déjà. Il se peut que les savants du hadith rapportent des hadiths qui ont des chaînes de transmission dans lesquelles il y a des innovateurs. Ça arrive, mais il y a des conditions très très strictes. Des conditions très très strictes. Une des conditions, par exemple, le fait que l'innovateur ne fait pas une innovation qui atteint le degré de kufr. Premièrement, et vous savez que chez les Shia, il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs niveaux de chiisme. Ce n'est pas tous au même niveau. Il y a ceux qui font du shirk, il y a ceux qui ne font pas de shirk. D'accord ? Donc, il ne faut pas que ça atteigne le niveau de kufr ou de shirk. Deuxièmement, il ne faut pas que la personne, l'innovateur, rapporte un hadith qui va fortifier sa croyance à lui. Donc s'il rapporte, soi-disant, un hadith qui vient fortifier sa croyance ou son égarement, on ne va pas le prendre. Parmi ces conditions, qu'il n'ait pas de défaut autre que son innovation qui fait que le hadith n'est pas bon. Par exemple, s'il est connu pour quelqu'un qui oublie souvent, qui n'a pas une bonne mémorisation, on ne va pas apprendre son hadith non plus. D'accord ? Donc il faut qu'il ait comme seul défaut que son innovation. D'accord ? Et c'est déjà beaucoup. Et autre condition, que ce soit quelqu'un qui a fait cette erreur-là, mais par interprétation. Qu'il ne soit pas connu pour quelqu'un de mu'anid, quelqu'un qui rejette la vérité. Si la personne elle est connue pour les gens lui ont fait da'wah, le conseiller, lui ont ramené les preuves, les textes, etc., etc., que malgré ça, il refuse parce qu'il suit ses passions, dans ce cas-là, on ne prend pas son hadith. C'est quelqu'un des passions. D'accord ? Ce n'est pas quelqu'un qui suit les preuves, mais c'est quelqu'un qui suit ses passions. Là, on ne prendra pas son hadith. D'accord ? Mais si c'est quelqu'un qui interprète et qui s'est égaré à cause d'une interprétation mauvaise de sa part, dans ce cas-là, il se peut qu'on prenne son hadith. D'accord ? Al-Muhim. معاني الكلمات العاتق ما هي العاتق العاتق ما بين المنكب والعنق هذا عاتق طيب هذا هو العاتق ما بين المنكب والعنق طيب العتيق فحمل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن على عاتقه وهو يقول هذه جملة حالية طيب donc ici on apprend que النبي صلى الله عليه وسلم portait الحسن sur son épaule d'accord donc العاتق c'est l'épaule hein, c'est là d'accord c'est ce qui est entre le cou et le côté du bras ici d'accord نعم sur son épaule العاتق donc tout à l'heure on a parlé de الحسين Là, on voit ici, on évoque Al-Hassan, Ibn Ali. Et il disait, le prophète, alayhi salam, « Oh Allah, certes, je l'aime, j'aime Al-Hassan, aime-le. »« Oh Allah, aime-le. » D'accord ? C'est-à-dire, « aime Al-Hassan. » Naam. « Ma yukhadhu min al-hadith, awalan, mulatafatu sibyani, wa rahmatu, وَرَأْفَةُ بِهِمْ Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith ? Premièrement, la mulatafa, la gentillesse, la tendresse avec les enfants. Hein? وَرَحْمَةُ La miséricorde, l'indulgence, رَأْفَةُ La douceur, la tendresse. D'accord ? Donc notre meilleur exemple, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit se comporter avec les enfants comme lui s'est comporté avec ses enfants. ثانياً طهارة رطوبات وجه الصبي. Deuxièmement, le fait que رطوبات les choses que le bébé ou l'enfant peut rejeter comme la salive, autre. Tout ce qui sort du nez, par exemple, c'est pur. D'accord ? C'est pur. Naam. Thalithan, al-hathu ala hubb al-Hassan ibn Ali. Wa bayanu fadlihi radiyallahu an wa an ali al-bayt. Lian al-muslima yarhamu al-khalq. لأنه مرحوم يرحمه الله جل وعلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم بالتسكين والضم كلاهما صحيح لا يرحم أو لا يرحم كما سيأتي في تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم بعض ولده الحسن والحسين فلما اعترض علي اتقبلون صبيانكم تعجب بعض الناس تعجب اتقبلون صبيانكم قال او املك ان نزعت الرحمه من قلبك كان النبي صلى الله عليه وسلم يهش ويبش للصبيان ويقربهم ويدلهم على ما فيه مصلحتهم Troisièmement, ici on a l'incitation a aimé donc Al-Hassan ibn Ali, sachant que Al-Hassan ibn Ali fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on se doit de les aimer tous en général, d'accord, mais particulièrement donc Al-Hassan, Al-Hussein, vu que c'est les petits-enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit aussi là le mérite des gens de Al-Bayt, hein? Al-Bayt, c'est qui Al-Bayt? Quand on dit Al-Bayt, la famille de façon générale rentre dedans ses enfants, Aulad, d'accord, quand on dit Al-Bayt, Aulad, ses enfants, wa Zawjatu, ses épouses, d'accord, rentre dedans aussi Banu Hashim, les descendants de son Hashim, son arrière-grand-père, d'accord, le clan de Hashim, et également le clan de Al-Muttalib. Donc les ulama, ils ont dit Al-Bayt, c'est qui Al-Bayt? Les enfants du prophète, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le clan de Hashim, donc son arrière-grand-père, et le clan de Al-Muttalib. Al-Muttalib, à ne pas confondre avec Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, c'est le grand-père du prophète, d'accord, sallallahu alayhi wa sallam. Abdul Muttalib, c'est le fils de Hashim, taïeb. Mais Al-Muttalib, c'est le frère de Hashim. C'est le frère de Hashim. Et donc, c'est l'oncle de Abdul Muttalib. Justement, pourquoi il a été appelé Abdul Muttalib? C'est pas son vrai prénom à la base, Abdul Muttalib. Parce qu'un jour, il est rentré de voyage avec son oncle, Al-Muttalib. Il est rentré de voyage. Et il avait la peau très foncée. D'accord, il avait la peau très foncée à cause du voyage et tout. Et les gens l'ont vu de loin, ils ont cru que c'était l'esclave de Al-Muttalib. Donc ils l'ont appelé Abd Al-Muttalib. Alors qu'en fait, c'est son neveu. D'accord, c'était pas son esclave, c'est son neveu. Et de là, donc, ils l'ont appelé Abd Al-Muttalib. C'est bon, les frères? Tu vois?
Non. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Donc on finit bi-idhnillah. Il dit ici l'encouragement donc d'aimer Al-Hassan ibn Ali, tayyib, et on voit le mérite aussi de Al-Bayt, la famille de manière générale. On a vu c'est qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le musulman, il se doit d'être miséricordieux avec toutes les créatures. D'ailleurs, même les animaux ou les plantes. Parce que, à la base, lui-même, il est marhoum. Lui-même, il est marhoum. Il bénéficie de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours. À chaque respiration, il profite de la rahma d'Allah sur lui. Même le kafir. Subhanallah. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'est pas miséricordieux envers les autres, on ne lui fera pas miséricorde. Ça veut dire que celui qui n'est pas miséricordieux, Allah Jalla wa Ala ne le sera pas pour lui. D'accord ? Comme on le verra, bi'idhnillah, dans les hadiths concernant, évoquant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'embrasser, de faire des câlins, des bisous hein, à ses petits-enfants, notamment Al-Hassan et Al-Hussein. Jusqu'à un jour, lorsque un des Arabes ont vu ça, donc ça montre qu'ils n'avaient pas l'habitude, certains, de ce genre de comportement. Hein? Ils ont vu le prophète faire des bisous à Al-Hassan Al-Hussein. Ils étaient choqués. Ils étaient étonnés. Et ils ont dit, est-ce que vous embrassez vos enfants? Est-ce que vous faites des bisous hein, à vos enfants? Yani? Et là, il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire si la rahma a été arrachée de ton cœur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse hein? Une fois que la rahma a été arrachée de ton cœur, moi je ne peux plus rien faire. Sauf si Allah Jalla wa Ala décide de remettre la rahma dans ton cœur. D'accord? Donc là on montre que si vraiment tu as de la rahma dans ton cœur, normalement tu te comportes comme cela avec les enfants. Pas seulement avec tes enfants, mais avec tous les enfants de façon générale. D'accord ? Aïna. Enfin, on apprend par cela donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui s'amusait, qui aimait s'amuser, qui aimait jouer avec les enfants. D'accord ? Au contraire, il les prenait avec lui, il les rapprochait de lui, afin qu'ils soient avec lui, il les sortait avec eux, etc., etc. Et il les conseillait, bien sûr, et leur montrait le bon chemin, le chemin à suivre, la voie à suivre, afin qu'ils grandissent dans les meilleures conditions. C'est comme ça que l'on doit être avec les plus jeunes. Et pour revenir donc au moustique, le tuer un moustique avec avec quoi? Par électrocution, c'est ça? Non. Voilà, donc en fait je pense qu'ils ont fait non, je ne sais pas où vous avez pris cette parole, mais qui c'est qui a voilà donc voilà, il me semblait bien qu'il n'y a pas de problème à ça. Donc l'interdiction c'est par rapport à l'nar, par rapport à l'nar, mais une différence entre le feu et l'électrocution, c'est pas pareil, d'accord. Donc le fait de tuer les moustiques par le biais de ce moyen là, il n'y a pas de problème, inshallah ta'ala. Wallah ta'ala a'lam. Naktafi bihada wal'ilmu indallah wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين بارك الله فيكم.